Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision chinoise CGTN que l'accord de partenariat stratégique de 25 ans entre Téhéran et Pékin présentait de nombreux avantages pour les deux pays. Les liens entre Téhéran et Pékin se développent dans tous les domaines, a-t-il déclaré, ajoutant que le partenariat stratégique de 25 ans sera mis en œuvre avec l'approche gagnant-gagnant. Amir Abdollahian est arrivé vendredi à Pékin pour rencontrer son homologue Wang Yi et d'autres hauts responsables chinois. Ces entretiens ont essentiellement porté sur l'accord de partenariat stratégique global, les développements régionaux et internationaux ainsi que les pourparlers de Vienne. Le partenariat stratégique et la coopération de 25 ans entre l'Iran et la Chine seront mis en œuvre selon une approche gagnant-gagnant, a ajouté le chef de la diplomatie iranienne. La Chine est l'une des parties actives au pourparler de Vienne. Son rôle est constructif en faveur des droits nucléaires pacifiques de l'Iran. Elle soutient surtout la levée des sanctions américaines contre le pays. Le pacte stratégique de 25 ans entre l'Iran et la Chine a été signé le 27 mars 2021. Il est officiellement entré en vigueur le vendredi 14 janvier 2022. C'est un événement très attendu qui marque un tournant crucial dans les relations bilatérales. Les troupes russes seront maintenues près de la frontière ukrainienne tant que la tension persistera dans la région, a assuré le porte-parole du Kremlin, évoquant une invasion graduelle de l'OTAN sur le territoire de l'Ukraine. Moscou ne peut plus tolérer l'invasion graduelle de l'Ukraine par l'OTAN, a déclaré la voix du Kremlin Dmitri Peskov dans un entretien accordé à la chaîne télévisée américaine CNN. Nous assistons à une invasion graduelle du territoire de l'Ukraine par l'OTAN avec ses infrastructures, ses instructeurs, ses dépôts d'armes défensives comme offensives, a-t-il indiqué. Selon lui, ces évolutions ont poussé les relations russo-ukrainiennes vers la ligne rouge, ce qui constitue une menace pour la stabilité et la sécurité en Europe. L'OTAN n'est pas une colombe de la paix. Dans ce contexte, la Russie juge nécessaire de maintenir ses forces armées à la frontière ukrainienne par souci de précaution face à la tension croissante dans la région et l'ambiance inamicale créée, selon Peskov, par divers exercices menés par l'OTAN ainsi que par les vols de ses chasseurs et avions espions. Nous considérons l'OTAN comme une organisation mise en place à des fins de confrontation et pas de protection. L'OTAN n'est pas une colombe de la paix, de la stabilité et de la prospérité. C'est une arme de confrontation qui s'approche de plus en plus de nos frontières, a exposé le porte-parole. Auparavant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait valoir qu'un déploiement d'armes offensives et de bases militaires américaines sur le littoral de la mer d'Azov constituerait pour Moscou une autre ligne rouge, même si l'Ukraine n'adhérait pas à l'OTAN. Par la suite, l'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoli Antonov, a déclaré que Moscou souhaitait recevoir des réponses écrites de l'OTAN et des États-Unis à ses projets de garantie de sécurité pour décider de l'utilité de la coopération ultérieure en la matière. Plusieurs manifestations contre le pass vaccinal et les restrictions sanitaires se sont tenues à travers la France ce 15 janvier. Les manifestations ont rassemblé 54 000 participants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, soit près de deux fois moins que la semaine dernière, qui avait été marquée par un des très nets rebonds de la mobilisation. À Paris, quatre cortèges ont mobilisé 7 000 personnes, dont 5 800 au rassemblement organisé par les Patriotes de Florian Philippot. Quatre personnes ont été interpellées selon le ministère. Dans le reste du pays, 47 000 manifestants et 6 interpellations ont été recensées. Alors que les députés ont adopté dans la nuit le projet de loi controversé transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, plusieurs cortèges étaient organisés dans la capitale. Le plus gros a été celui du mouvement Les Patriotes du candidat pro-Frexit à la présidentielle, Florian Philippot. D'autres défilés ont eu lieu à l'initiative des Gilets jaunes pour l'exécutif et les forces de l'ordre. L'un des enjeux sera de savoir si la participation sera supérieure à la semaine précédente. Dans la foulée des déclarations d'Emmanuel Macron sur sa volonté d'emmerder les non-vaccinés, 105 200 manifestants avaient été comptabilisés par le ministère de l'Intérieur dans toute la France, 4 fois plus que les 25 500 de la précédente mobilisation le 18 décembre dernier. Le retrait précipité des forces de l'OTSC du Kazakhstan aurait pu être soigneusement planifié afin d'amener l'armée américaine et des représentants de la CIA sur le territoire de ce pays. Selon Aviapro, un avion spécial américain est arrivé à Almaty avec à son bord des représentants de l'armée américaine et de la CIA. L'arrivée des forces étrangères a en fait commencé après que l'armée russe a remis l'aéroport international d'Almaty entre les mains des forces de sécurité du Kazakhstan. Pour le moment, l'objectif de cette expédition n'est pas vraiment connu. Des rapports avancent la participation des services de renseignement américains à l'enquête sur une tentative de coup d'État. Selon une version plus officielle, elle viserait à évacuer des citoyens américains du pays. Cependant, aucune évacuation n'a suivi. Ce à quoi beaucoup ne s'attendaient pas, c'est que juste au moment où l'armée russe était sur le point de se retirer du Kazakhstan, un avion d'affaires de la compagnie aérienne américaine Phoenix Airlines a volé directement de l'aéroport international géorgien de Tbilissi vers la plus grande ville du Kazakhstan pour organiser l'évacuation du personnel. Mais les personnes concernées savent que ce n'est qu'un prétexte. Étant donné que l'avion appartient à la CIA, son véritable objectif est cette fois de transporter des agents au Kazakhstan pour y mener une mission de renseignement pertinente. Les États-Unis pourraient profiter du chaos au Kazakhstan pour prendre le contrôle des régions limitrophes de la Russie, rapporte la publication NetEase. Il convient de noter que l'achèvement assez rapide de la mission de l'OTSC au Kazakhstan à la demande du président Tokayev a soulevé de nombreuses questions car la plupart des terroristes qui ont participé à l'attaque terroriste contre le pays se trouvent toujours à l'intérieur du territoire. Parce que l'énergie solaire et l'énergie éolienne sont en réalité beaucoup plus coûteuses que les hydrocarbures conventionnels ou l'électricité nucléaire, elles font augmenter le coût global de l'énergie électrique pour l'industrie, ce qui oblige de nombreuses entreprises à fermer ou à déménager. Seule la fraude statistique officielle masque ce phénomène. L'Europe et les États-Unis auront besoin d'énormes volumes d'acier et de béton pour construire les millions de panneaux solaires ou de parcs éoliens attendus. Cela nécessite d'énormes quantités de charbon conventionnel ou d'énergie nucléaire. Combien de stations de recharge de voitures électriques seront nécessaires pour recharger à domicile 47 millions de voitures électriques allemandes ? Un important groupe de réflexion sur l'énergie verte aux États-Unis, Rethink X, a publié une étude de propagande pour les énergies renouvelables en 2021 intitulée « Repenser l'énergie 2020-2030, 100% de solaire, d'éolien et de batterie, ce n'est que le début ». Leur réponse au problème de faible capacité pour l'éolien et le solaire est de construire 500% ou même 1000% de plus que prévu pour compenser le faible facteur de capacité de 25%. Ils affirment de manière absurde, sans aucune preuve concrète, que notre analyse montre que l'électricité 100% propre, issue de la combinaison du solaire, de l'éolien et des batteries, est à la fois physiquement possible et économiquement abordable sur l'ensemble du territoire continental des États-Unis, ainsi que dans l'écrasante majorité des autres régions peuplées du monde d'ici 2030. Cette surabondance de production d'énergie propre, que nous appelons superpuissance, sera disponible à un coût marginal proche de zéro pendant la majeure partie de l'année. Cette déclaration est présentée sans un iota de données ou d'analyse de faisabilité scientifique concrète, c'est simplement une affirmation dogmatique. Maurice Strong, un ex-secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement de 1970 à 1972, a ouvertement énoncé lors du sommet de la Terre de l'ONU à Rio en 1992 le programme brutal des partisans de l'eugénisme radical tels que Gates et Schwab. Le seul espoir pour la planète, a-t-il déclaré, n'est-il pas que les civilisations industrialisées s'effondrent? N'est-il pas de notre responsabilité de le provoquer? Si les économies autrefois avancées et à forte intensité énergétique des pays membres de l'OTAN en Europe et aux États-Unis continuent sur cette voie suicidaire, leur capacité à organiser une défense ou une attaque militaire convaincante deviendra un mirage. Récemment, la présidente corrompue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'industrie de la défense allemande de haute technologie et ses fournisseurs ne devraient pas recevoir de crédit bancaire parce qu'ils ne sont pas assez verts ou durables. Il semblerait que les banques aient déjà compris le message. Avec le pétrole et le gaz, la production de défense est désormais visée. Von der Leyen, en tant que ministre allemande de la Défense, avait été largement blâmée pour avoir laissé la défense allemande s'effondrer jusqu'à un état catastrophique.